Nous sommes avec David Renaud dans son atelier, accompagné de François Aubard, commissaire et critique d'art. Ils vont parler ensemble de ses derniers travaux et de l'exposition Point Nemo, présentée à la galerie Anne Barrault. Il y a du bruit qui nous entoure, et par-dessus, nous allons parler.
Parler de ton travail et plus précisément d'une pièce que tu présentes dans une expo de groupe à l'IAC qui ouvre le 5 février. L'expo s'appelle Rideau Blind et je crois qu'on finira, enfin on parlera de cette pièce à la fin de notre discussion. Enfin, et pour parler aussi de ta prochaine expo perso chez Anne Barrault qui ouvre le 21 mars et qui finit le 24 mai. Et qui s'appelle Point Nemo. Point Nemo qui est aussi le nom d'une des pièces que tu montres dans cette expo. Donc peut-être, assez simplement, commençons par Point Nemo. Et peut-être commençons par une explication de ce qu'est le Point Nemo, avant d'aller plus loin dans la façon dont tu le traites.
D'accord. Alors, le Point Nemo, en fait, c'est un point géographique qui correspond à une coordonnée de longitude, latitude, donc une coordonnée GPS, qui est le point le plus éloigné de toute Terre. Donc il se situe dans le Pacifique et qui est le nom, en fait, Nemo, correspond évidemment au capitaine Nemo. Donc je ne sais pas d'où vient cette nomenclature, puisque mais c'est une sorte de citation comme ça à Jules Verne et c'est pas la première fois que je me réfère à Jules Verne et ça tombait vraiment très très bien.
Parce qu'il a été nommé récemment. Enfin,
et j'ai pas trouvé de date. Je pense que c'est un point qui doit être assez récent, mais j'ai pas trouvé de date de quel moment ce calcul a été fait. Mais de toute façon, certainement au XXe siècle.
D'accord. Donc, de toute façon, c'était pour être sûr que c'était bien post.
Et donc c'est un. C'est un lieu qui n'est pas un lieu, puisque c'est juste une coordonnée en plein milieu de l'océan. Alors, il y a une autre anecdote par rapport à ce point Nemo qui correspond aussi à peu de choses à une cité que décrit Lovecraft dans un de ses, un de ses livres. Donc, j'aime bien comme ça ces jeux de ramifications et de correspondances littéraires, c'est-à-dire faire coller un point géographique existant à finalement deux références littéraires. Et surtout, c'est qu'il il annonce l'expo dans le sens où, comme on est au milieu des océans, c'est un peu le thème de l'expo finalement. C'est
d'être au milieu de l'océan.
D'être dans cet espace-là, en fait, l'espace maritime, dans sa. Non pas dans son côté romantique ou fantastique, mais plutôt cartographique.
Mais et parce que, enfin, en fait, ce point Nemo, il a une utilité. Enfin, c'est un vrai repère pour des marins, ou enfin, ou c'est juste un calcul.
C'est juste un calcul.
C'est juste un calcul. Mmh. Donc c'est c'est une définition de cartographe plus que de gens qui l'utilisent.
Oui, ah oui. Souvent, finalement, les cartographes, il y a comme ça un certain nombre de lieux ou de façons d'appréhender la géographie et l'espace géographique avec des références qui peuvent être un peu au-delà d'une fonction d'usage finalement, qui sont plus une façon d'appréhender l'espace.
Quoi. Ouais, mais qui est une façon de jouer aussi avec une typologie d'écriture qui est celle de la cartographie.
En fait, exactement, ouais. Oui, c'est. C'est une des entrées qu'on peut retrouver de manière assez récurrente dans ma recherche, c'est à quel moment le travail du cartographe, plus que du géographe, à quel moment le travail du cartographe échappe finalement à l'usage ou à la fonction d'usage et ancré dans l'ensemble des signes qui manipulent,
ouais,
hein, et qui font le langage cartographique, parce que je pense que c'est du même ordre que du langage, à quel moment il est autonome de toute autre donnée extérieure, même ça reste de la cartographie et que ça reste évidemment ancré dans l'histoire, dans la géographie.
C'est de la cartographie pour cartographe, quoi.
Presque, ouais.
Et du coup, tu le traites comment, ce point d'émo? Enfin, parce que c'est effectivement, tu l'expliquais, c'est le point de départ de l'expo et peut-être un état comme ça perdu au milieu de la mer et aussi une réflexion sur la cartographie. Mais c'est aussi une pièce.
Alors, la pièce, elle est un diptyque. D'un côté, tu as sur fond blanc en caractère rouge les coordonnées. Donc les coordonnées GPS. Et de l'autre côté, j'ai dessiné une carte centrée sur le point Nemo et qui ne représente pas du tout l'intégralité de la planisphère terrestre, qui représente un peu plus que le point, que les premières côtes, les premières zones terrestres qu'on voit. Donc on voit le bas de l'Amérique latine et on voit une partie de l'Antarctique.
Ils sont reconnaissables? Enfin, on arrive à l'île. Tu crois que
la pointe de l'Amérique latine, elle est quand même assez assez précise et assez elle est dans l'imaginaire, elle est dans les codes, je pense, d'entre nous, donc on peut la situer après. Tant pis si les gens s'y retrouvent pas. C'est toujours une chose qui est toujours drôle, c'est comment les gens arrivent on a l'impression qu'une carte, tout le monde sait lire une carte, mais en fait, à l'usage, à force de rencontrer des gens, je m'aperçois qu'il y a des gens qui ne
savent pas lire des cartes.
Pas du tout lire des cartes.
T'es jamais parti en vacances avec plusieurs personnes, ça se passe. Mais et donc du coup cette pièce c'est vraiment la mise en correspondance de deux types d'écriture aussi. Enfin c'est une chose qui est une cartographie à proprement parler, puis une chose qui sont des balises de référence.
Oui, c'est un peu lié à l'expo, c'est-à-dire j'avais envie d'essayer de voir comment comment proposer un ensemble de cartes, puisque l'expo va être finalement quelque chose qui s'apparente à un ensemble de cartes, mais qui commence à être des cartes qui sont de moins en moins purement cartographiques, mais elles font encore. C'est-à-dire jusqu'à quel point je peux aller dans l'abstraction, je ne garde plus qu'une donnée, mais elles restent encore des cartes. C'est-à-dire essayer d'aller vers sorte d'ultra minimaliste, même si j'aime pas du tout ce terme cartographique en fait, mais en espérant toujours que le regardeur, ou quand il voit les différentes propositions, soit toujours dans cet espace cartographique, cet espace de projection d'un ailleurs, d'un lointain, etc.
C'est la première fois que tu confrontes ces deux types de codes de...
Les coordonnées, je m'en suis servi plusieurs fois pour des titres. Souvent il y a les titres, parfois dans certaines cartes il y avait comme titre les coordonnées, ou comme titre d'expo même, mais en tant que juste œuvre, c'est vraiment la première fois. Mais on reviendra dessus parce qu'il y a une raison très précise que tout d'un coup j'arrive vers ces coordonnées. Entre le dessin et les coordonnées. Mais je pense qu'en plus, finalement, quand on parle de coordonnées GPS, même si ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la cartographie, je pense qu'il y a des gens qui savent ce que c'est qu'une coordonnée GPS, mais ne savent pas s'en servir ou ne savent pas l'utiliser. Mais tout de suite, ça renvoie à l'imaginaire de la cartographie ultra contemporaine, du téléphone portable, etc. Et j'aimais bien cette idée-là d'une forme finalement qui en renvoie une autre, qui en renvoie une autre, puisque c'est ça, hein, la carte est une représentation du paysage qui renvoie au paysage. Et là, c'est les coordonnées renvoient à la cartographie qui renvoie au paysage, etc. Ouais. Donc il y a une espèce de mise en abîme. Ouais.
Et de superposition de différentes écritures, enfin successives.
Voilà. Dans... Ouais.
Parce que, enfin, il y a une autre pièce qui sera, enfin, il y a une autre série de pièces qui seront dans cette expo. C'est les coordonnées de certaines îles.
Oui.
Et où là, pour le coup, c'est strictement des coordonnées en fait.
C'est strictement des coordonnées, et là, le choix de ces coordonnées sont liés non pas à des points géographiques ou cartographiques remarquables, mais à au toponyme qui désigne le même endroit. En fait, chaque coordonnée renvoie à un nom, mm-hmm. à une expression, et finalement, là, il est presque plus question de géographie ou de cartographie, mais presque de... Je ne saurais pas comment définir ça, mais je te donne des exemples, hein, des ouais. îles nommées. Donc on a des coordonnées, et ces coordonnées donnent, si on cherche, ça donne l'île de la désolation, l'île de la possession, ou l'île inexpressible, ou l'île de la promesse. Enfin, il y en a comme ça un certain nombre. Et donc à chaque fois, ça renvoie effectivement à une chose qui échappe totalement finalement à des choses
cartographiables.
Cartographiables.
comment tu les as choisis ces mots? Enfin, c'est pas ces mots, mais ces noms d'îles.
Ben, je les ai trouvés, je les ai pas choisis.
Ouais,
mais... non, mais c'est important.
Ouais.
Ben justement parce qu'ils m'intéressent, parce qu'ils sont. Il renvoie finalement à l'expérience. Certainement, la plupart de ces noms ont été donnés par les marins qui les ont découvertes. Et finalement, c'est à chaque fois une sorte de...
Il y a des marins qui ont donné déception comme nom d'île, tu crois?
Enfin, c'est vrai. Et comme si la promesse et la déception, c'est... Ouais. Tu vois, c'est on se fait des mois de navigation, on arrive, on voit enfin la Terre, et finalement...
Ah oui, tu veux dire qu'elles sont très liées, les noms sont très liés aux conditions de leur découverte, enfin, c'est...
Leurs conditions de découverte, leur géographie, leur ouais. forme, tu vois, leur... en fait, bon, déception, c'est le terme anglais, hein, c'est pas le terme français, donc c'est pas... aussi fort qu'en français, mais c'est une île volcanique avec un bassin intérieur par lequel on peut accéder en naviguant. Donc voilà, je pense que quand ils sont arrivés, ils se sont dit c'est super, et puis une fois qu'ils étaient là, ils se sont dit que c'était pas super. Je pense qu'il y a un truc de cet ordre-là. Et elles sont aussi le reflet de pour moi, ces noms sont le reflet de ce qui se passe quand on peut être enfant, mais pas que les enfants, où on prend un atlas et puis tout d'un coup, ça y est, on voyage.
Ouais.
Et donc, ce ne sont pas des termes qui sont à proprement parler du voyage, mais qui renvoient finalement à des expériences singulières.
Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi important de préciser comment tu les... Alors, tu as dit que tu les trouves.
Oui.
Mais. Non, parce que là, tu me racontais, quand, l'autre jour, tu me racontais que tu passais un certain temps à les chercher. Et effectivement, cette histoire que tu racontes de quelqu'un qui se balade sur une carte, qui commence à voyager, mmh. est aussi assez proche de la façon dont tu les
cherches. Dans le travail, parfois, oui. Oui, oui je l'ai dit beaucoup, mais je suis un vrai voyageur immobile. Moi, c'est dans les atlas, c'est dans les banques de données que je navigue, que je voyage. Et c'était très drôle, d'ailleurs, à propos d'île, elle n'y sera pas dans l'expo, mais quand j'ai travaillé sur l'atlas, donc la course de Marc Tiercelin, donc j'ai fait un atlas, une carte par jour de sa course. Et comme il s'est arrêté en Nouvelle-Zélande pour réparer son bateau, c'est grâce à lui que j'ai trouvé l'île Antipode.
D'accord.
Parce qu'on connaît tous le terme Antipode, mais tout d'un coup, en cherchant, j'ai vu, bah tiens, il y a une île qui s'appelle Antipode. Et là, pour moi, c'est bingo, quoi. C'est un vrai marin qui voyage et qui me fait découvrir, moi en restant devant mes atlas, mon ordinateur, l'autre bout du monde. Quoi.
Et donc ces noms d'îles, en fait, ils apparaissent pas vraiment sur les pièces elles-mêmes, si ce n'est en barre.
Si, ils vont rester ouais. Inscrits en dessous. Ça me semble quand même.
Mais ce qui est quand même mis en avant, c'est là aussi plutôt leurs coordonnées GPS.
Donc, oui. Oui, alors en fait, c'est une peinture sur papier. Les coordonnées sont en défonce. Je ne sais pas si on dit ça pour la peinture.
Alors ça, c'est pas moi qui vais te répondre.
En gros, j'inscris les coordonnées donc avec une typo ultra classique. Hein, mais je ne peins pas les coordonnées, je peins juste autour.
D'accord.
Et chacune des îles, donc c'est un ensemble de grilles, et chacune des îles est un gris différent. Mm-hmm. C'est un carré sur un fond papier. Et donc les coordonnées apparaissent par soustraction finalement. Merci. Par soustraction de la peinture.
Mm-hmm. Ce qu'on a en premier lieu sous les yeux. C'est aussi assez important, je crois, dans ce rapport entre deux écritures et deux histoires. Ce qu'on a sous les yeux, c'est d'abord une suite de chiffres.
Oui.
Qui paraît quand même très abstraite et qui paraît assez froide et distante. Mm-hmm. Et effectivement, quand on s'en rapproche, on voit, enfin, on découvre le nom de cette île. Enfin, et effectivement, toute la part narrative qu'elle peut soulever, c'est-à-dire déception. Une expression, je ne sais plus lesquelles, quelles étaient les autres.
Promesse.
Cafard, promesse, etc.
Le cafard, il ne sera pas le cafard.
Mais qui est aussi, c'est peut-être plus radical que dans le point Nemo, mais il y a quand même, il y a aussi cette mise en rapport entre deux écritures, l'écriture comme ça très froide et distante du GPS, qui est une information extrêmement précise, extrêmement singulière et extrêmement finalement normée. Et potentiellement quelque chose dessous qui est l'histoire de ce lieu, c'est-à-dire, ouais. Comme tu disais, les types qui l'ont découvert, les conditions dans lesquelles ils l'ont découvert, comment ils se sont appropriés ce territoire, comment ils l'ont nommé.
Ouais, c'est a priori, comme on parle là, c'est très froid, sauf que c'est peint à la main, il y a quand même tout un jeu de nuances, de gris, de l'une à l'autre. Donc effectivement, ça peut sembler comme ça assez froid, mais c'est pas imprimé. J'aurais pu les imprimer, ouais. J'aurais pu me faire simple. Non, il y a c'est une des choses qui est un peu aussi un des fils conducteurs de l'exposition à venir, c'est que toutes ces cartes sont faites à la main. S'il y aura pas le point Nemo, il n'y a aucune impression. Et il y a un vrai travail de peinture, même si c'est de la peinture sur papier, c'est un vrai travail de peinture. Donc il y a quand même, je pense, une certaine derrière cette première impression de froideur, il y a quand même certainement une chose plus sensible.
Du coup, la question du temps ou le temps de du voyage est, on va dire, transporté dans le temps de la peinture ou de son application.
Dans le temps de l'exécution, oui, moins. Oui, ça a toujours été dans la plupart des travaux cartographiques que j'ai pu faire. Finalement, là, peut-être moins, parce que c'est un peu la série. C'est la première fois que ça me prend finalement aussi peu de temps à faire. Même si, on en reparlera tout à l'heure, les Martelloirs, c'est une bonne semaine de boulot. Ouais. Mais c'est une semaine de boulot, c'est rien par rapport à d'autres pièces qui sont sur plusieurs semaines. Mais c'est vrai que cette question du temps du travail, elle est là dans le. Comme aussi une façon de se l'approprier, cette chose-là. Ce n'est pas juste l'idée d'une coordonnée et puis basta. Quoi. Ça, je ne suis pas très...
Parce que c'est quoi? C'est le temps passé dans l'atelier à la réalisation, ou c'est le fait qu'on puisse sentir comme ça qu'il y a un... Enfin, ce temps, il a quel...
Il est important pour moi. Je crois qu'on ne le voit pas.
Ouais.
Je pense que ceux qui regardent le travail, généralement, ils ne font pas gaffe qu'il y a beaucoup de temps de travail.
Ouais.
Non, il est juste pour moi. C'est une question auquel j'ai jamais vraiment su comment répondre de manière juste, mais c'est fondamentalement important d'avoir ce temps. Et même ce risque, parce que je peux rater, donc je peux recommencer, donc je peux perdre ce temps.
Ouais. Et le fait que ce soit finalement, enfin, parce que le fait que tu puisses rater, ça veut dire que ça pourrait être ça veut dire qu'il y a un moment où c'est réussi ou pas. Enfin, c'est curieux de parler de réussite ou pas dans le fait d'écrire avec une typo qui est assez simple, une
série c'est peut-être moins évident là sur les coordonnées, mais sur les martelloires.
Ouais.
Si je me plante sur une des lignes qui constituait rhombe, il faut que je refasse tout.
Mm-hmm.
Parce que c'est du crayon sur une couleur claire et mate que tu peux pas gommer, donc tu t'effaces tout et tu recommences. Ouais. Bon, des fois, je me dis que c'est peut-être ça tient peut-être de l'ordre de la stupidité, mais...
Est-ce que c'est pas du coup un moyen de se confronter, mais différemment, à être un explorateur, d'être dans ce temps de recherche? Quand tu parles de pouvoir rater, ben, une personne qui rate les données change de cap et du coup va autre part. Il y a aussi...
Il se perd surtout.
Oui, mmh. Même si c'est ce que tu recherches, il y a quand même ce...
Je sais pas. Sérieusement, je sais pas.
Est-ce que tu as les données que toi tu reçois, tu peux les avoir assez rapidement? Tu disais sur un ordinateur, en ouvrant un atlas. Donc il y a un temps quand même assez rapide pour.
Pour avoir accès, c'est très très rapide. Oui, non, c'est peut-être aussi une sorte de façon de. Mais, du coup, je pense qu'on échappe pour la question de la cartographie, on bascule sur une question de l'art, qu'est-ce que c'est être artiste, comment on passe sa position en tant qu'artiste. Voilà. Et moi, elle est là, quoi. En tout cas, elle est très explicitement là.
Mmh.
Autant il y en a qui peuvent revendiquer le fait de faire... sous-traiter tout, autant même si ça m'arrive d'avoir des gens qui viennent m'aider ou de faire sous-traiter, parce qu'il y a des choses où malheureusement ou heureusement on a besoin de faire sous-traiter, mais le fait de le faire moi me permet de simplement dire c'est ça, même si c'est un travail c'est un travail bête, c'est un travail de coloriage, de remplissage.
Ouais.
Ça n'a pas grand intérêt, il n'y a pas de virtuosité, il n'y a pas de qualité singulière à ce travail-là, mais il est là, quoi.
Et jusqu'à présent, là, sur les deux pieds, c'est pourrait presque être un fil conducteur de beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, dans ces deux pièces, il y a tout le temps, comme ça, deux écritures qui se croisent,
mm-hmm.
C'est-à-dire très... de façon très lisible dans Point Nemo, et puis de façon moins évidente, mais quand même qui est pivot pour les pièces sur les îles, c'est-à-dire d'un côté cette information très froide et de l'autre côté cette information très narrative. Et dans les marteloires, on a aussi cette idée de superposition de deux écritures.
Oui.
Puisque c'est le... Tu vas décrire ça.
Oui, je vais le
décrire. C'est aussi là encore la rencontre de deux façons de d'écrire un territoire, enfin, en tout cas de le représenter.
Alors, les martelloires, c'est donc des cartes, ou en tout cas quelque chose qui ressemble beaucoup à des cartes, et qui en fait prennent simplement deux codes cartographiques, un moderne, enfin contemporain, et un beaucoup plus ancien. Le plus ancien, c'est le nom même des œuvres l'indique en fait. Donc les Martelloirs, ce sont les systèmes de réseaux constitués de 12 rhombes, qu'on appelle plus les rhombes, on les appelle plus couramment les roses des vents. Donc c'est un dessin géométrique extrêmement précis et qui permettait aux navigateurs du 15e, du 14e et du 15e siècle de finalement traverser les océans, donc tous les ports tulans sont basés non pas sur un système GPS longitude latitude mais sur des Martelloirs et donc sur ces possibilités de nord-est, nord-nord-est, nord-nord-est, etc. Et donc ça fait un dessin extrêmement géométrique. Et donc je viens superposer à ce dessin à un fond bleu, qui est un bleu qui correspond au fond bleu des cartes imprimées modernes. Donc généralement un cyan à 20-30%. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de superposer ce dessin-là avec une variation de ces bleus-là, en fait. Comme si, justement, il y avait une espèce de tentative de faire du cyan pur en peinture, ça, c'est pas possible.
C'est-à-dire, pourquoi ?
Ben parce que du cyan d'impression, ce ne sera jamais le même que le cyan peint. Et donc là, ça m'intéressait de jouer sur cette variation, ces variations possibles de bleu. Et puis même, on le voit, en fait, quand les cartes imprimées, des fois, c'est jamais tout à fait le même. Donc, il y a toujours un peu des variations. Il suffit que l'imprimeur, du genre là, il ait mal réglé sa machine, et hop, celui-là, il est un peu plus... Je sais pas, il y a un truc dedans qui fait qu'il a l'air un peu plus vert. Donc c'était un peu accentuer ça. Et donc du coup c'est presque plus des cartes puisque c'est la première fois où je fais des cartes qui ne correspondent pas à un endroit précis qui existe. Donc c'est vraiment une abstraction de cartes, une idée de la carte. Finalement ça renvoie à un petit peu une carte, un grand classique qui est la carte qui accompagne le poème de Lewis Carroll, La chasse au snark, cette fameuse carte blanche. Donc il renvoie à celle-ci, mais...
Est-ce que tu peux la décrire, cette carte, pour ceux qui ne la connaissent pas ?
Celle de Lewis Carroll ?
Ouais.
Donc c'est... il aura fallu le bout du poème. Donc c'est un poème de Lewis Carroll qui s'appelle « La chasse au snark ». Donc il y a plusieurs parties, et là c'est une partie qui est titrée « Deuxième crise ». Dont le sous-titre c'est « Le discours de l'homme à la cloche ». L'homme à la cloche, lui, tout saut nu, le portait. Si un noble maintient tant d'aisance, de grâce, et cet air solennel, on le devinait sage, rien qu'à l'expression de son mâle visage. Il avait de la mer acheté une carte, ne figurant le moindre vestige de terre, et les marins, ravis, trouvèrent que c'était une carte qu'enfin ils pouvaient tous comprendre. De ce vieux mercator, à quoi bon pôle Nord ? Tropique, équateur, zone et méridien, tenait l'homme à la cloche, et chacun de répondre. Ce sont conventions qui ne riment à rien. Quel rébus que ces cartes, avec tous ces caps, et ces îles, remercions le capitaine de nous avoir, à nous, acheté la meilleure, qui est parfaitement et absolument vierge. Voilà, je crois que tout est dit, en fait, dans ce passage-là. La cartographie est un langage, on le disait au début, avec des conventions, et finalement c'est assez plaisant de jouer avec ces conventions pour finalement la renverser, la rendre abscon.
Ouais. C'est aussi une façon de se débarrasser des contraintes, non ? Enfin, parce que si sur ta carte t'as plus d'îles et t'as plus de... finalement tu peux naviguer vachement plus tranquillement si t'es sûr qu'il n'y a pas d'île.
Ouais, bien sûr. Ouais. cette série là, elle est un peu une suite à et les grandes cartes murales que j'ai fait avec les petites îles perdues au milieu de cet énorme bleu, justement ce bleu immatériel, enfin qui est une pure couleur, et le travail, la classe dont je parlais tout à l'heure de Marc, où comme j'ai zoomé sur la carte en suivant son parcours jour par jour, en fait on ne voit pas du tout son déplacement, on voit que des cartes bleues qui se succèdent les unes après les autres. Et donc on ne sait pas à quel moment il passe le cap de Bonne-Espérance, à quel moment il est dans l'océan Indien. Enfin, on peut le savoir parce qu'il y a les coordonnées, mais il faut les chercher. Quoi. Ouais.
Mais pour le coup, par rapport justement aux coordonnées des îles, on est dans quelque chose qui indique, enfin je ne sais pas comment l'expliquer très clairement, mais qui indique carte, enfin qui fait signe de carte. C'est-à-dire qu'on a ce bleu dont tu parlais et ces traits qui fait qu'on est face à un objet dont on comprend bien qu'il qu'il cartographie quelque chose. Mm-hmm. En tout cas, que si on était capable de le lire, on pourrait se déplacer. Malheureusement, enfin, on n'en a pas les codes.
Ouais.
Mais on est plus clair. Enfin, à mon sens, hein, mais peut-être que je me trompe, mais on est face à ces objets-là plus clairement, face à quelque chose qui se donne directement comme une carte.
Ouais. Mais il n'y a pas d'échelle, par exemple, aussi. Ouais. Donc, non seulement il n'y a pas de correspondance à un lieu réel, mais il n'y a pas d'échelle. Donc on peut. Je pourrais leur donner une correspondance. Je pourrais décider, tiens, bah, celle-là, elle est au milieu de l'océan Pacifique, celle-là. Mais non, là, finalement, on est avec deux codes, un cartographique de la Renaissance, un moderne.
Tous les deux transformés en peinture, et là, c'est peut-être aussi l'importance de le peindre à la main.
Oui. Les faire imprimer, là une fois encore, ça serait un peu faux, pas juste. Enfin, j'en imprime qu'une, j'en fais pas une série avec des jeux de variations de couleurs, avec justement le fait que les lignes sont tracées à la main, donc il y a des erreurs, des légères erreurs ou des petits tremblements. Enfin, là aussi, il y a une sensibilité, mais qui est la même chose que l'on voit dans les portulans, les vrais portulans qui étaient faits effectivement à la main. Et puis après, il y a une autre chose dont on n'a pas encore parlé, mais il y a comme ça un jeu de citations aussi, de citations, c'est pas vraiment des citations, c'est plutôt des renvois à une forme artistique des années 70, parce que les îles, donc, qui sont des écritures blanches avec un fond noir, gris, etc. Ou les martelloires qui sont des réseaux de lignes assez grandes. Ça me semble assez évident de voir les filiations, enfin, à qui je peux penser. Tu vois. Ouais. Et ça m'amuse assez aussi de jouer avec aussi ces codes-là, finalement. Parce qu'il y a aussi ces codes-là qui viennent, qui sont des codes de forme ou d'art contemporain. Et que lesquels je joue finalement.
Ouais. Ouais, en l'occurrence, j'imagine que pour les codes GPS, tu penses plutôt à des artistes conceptuels.
Ouais. Évidemment. non, mais c'est. Je crois que ça se voit, ça se verra, enfin, j'espère, assez directement avec Onkawara.
Et les martelloires, enfin, qui sont ces grands monochromes bleus
avec ces lignes, c'est pas très loin du travail que de certains World Driving de Sol LeWitt.
Ouais.
En sachant qu'en plus j'en ai fait des vrais.
Des vrais Sol LeWitt.
Sol LeWitt.
Des vrais World Driving.
Et ça me plaît assez, tu vois. Ouais.
Tu veux dire, c'est un geste que tu as réalisé pour...
Ouais. Ça me plaît assez comme ça de savoir qu'à un moment donné, j'ai fait un Sol LeWitt en graphite, que de lignes tous les 1 cm, etc. Mm-hmm. Et que quelques années, enfin bien 15 ans, voire plus après, je signe donc un seul Lewitt, puisque celui qui le fait le signe, en tout cas le premier. Et là, tout d'un coup, je me réapproprie ce Lewitt. Enfin, tu vois, ouais, ça marche aussi dans ce sens-là, évidemment, quoi.
Ouais, en le reléguant à un vocabulaire beaucoup plus utilitaire. Enfin, je dis évidemment pas que tes cartes le sont, mais c'est vrai que déplacer les traits de Sol Lewitt dans un truc qui est une représentation scientifique, tout d'un coup, ça fait dérailler un certain nombre de choses.
Ouais, mais c'était un peu... Enfin, ouais, quand même, les minimalistes, et il y a toute cette question de la grille et de la cartographie, c'est ouais, aussi de la grille. Enfin, de ce fait, je reconnais quand même une certaine... filiation des questions que je peux poser par rapport à la forme ouais, artistique qui apparaissent déjà très explicitement là, quoi. Mm-hmm.
Je me posais la question de, enfin tu me le en voyant les ces cartes originales pour, enfin pour utiliser ce terme là c'est-à-dire ces cartes tracées avec des lignes qui se croisent à 90 et 45 degrés. Mmh. Je me demandais comment tu délimitais les parties que tu sélectionnais, parce que visiblement tu en prends un bout pour la déplacer sur sur tes peintures. Je me trompe? Apparemment, ouais. Non, tu représentes pas toute la carte.
Sur les bleus, là?
Ouais.
Ah si, le martelloir, il est entier.
Il est en entier?
Il est en entier, ouais.
D'accord.
Et c'est vrai que j'en ai fait quelques-uns où il n'y a que des détails de... où j'ai un bout du martelloir, donc j'ai deux rhombes, trois rhombes.
D'accord.
Là, c'est juste comme un détail, comme si... Là, de toute façon, la cartographie, c'est toujours que des bouts de quelque chose qui est plus grand. Donc, ouais, donc tu peux toujours
sélectionner.
Soit tu fais un atlas avec une planisphère, une représentation complète à la Mercator ou etc. Soit tu zoomes et donc du coup tu es à des échelles autres. Mm. De toute façon, la question de l'échelle évidemment est inhérente à la question de la cartographie, mais elle existe dans pratiquement toutes mes œuvres. Quelle est la bonne distance de l'objet qu'on regarde? Il y a notre distance à nous, spectateurs ou regardeurs, mais après, quelle est la distance que l'objet qu'on voit nous propose? Peut-être qu'il y avait un morceau de musique à nous faire écouter.
Ouais, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Wire. Et j'avais pensé à ce morceau pour une raison assez simple, c'est que il me semblait avoir lu quelque part que c'est un groupe qui commence à jouer au milieu des années 70, je pense, ou à la fin en tout cas, et qui fait la transition comme ça, fin 70, début 80. Et il me semblait avoir lu quelque part qu'ils composaient tous leurs morceaux selon des formules mathématiques. Et ce qui est absolument pas audible dans les morceaux qui sont espèce de post-punk, un peu plus atmosphérique que la moyenne ambiante, mais rien non plus d'extrêmement expérimental. Et j'aimais bien cette idée de relation avec un code ou un système normé, desquels on s'écarte très vite, et il me semblait que ça avait une forme de rapport avec ton travail. Il se trouve qu'on n'a pas, enfin, j'ai pas retrouvé en tout cas aucune trace de cette affirmation, donc j'en suis pas très, très bien sûr, mais ça tombe plutôt bien vu que visiblement c'est un groupe que tu connaissais.
Ouais, oui, ça fait partie de mes bases.
Et que j'avais prévu de l'amener, j'avais oublié de l'amener, et tu l'as dans ton ordinateur. Donc.
Non, j'ai même CD.
Hopping on the wall.
après cette pièce qui évoque comment on se repère dans l'espace, peut-être qu'on peut passer à des choses qui sont, notamment tes séries de peintures de camouflage, qui ont aussi un rapport très direct avec le paysage, mais plutôt, plus graphique, ou en tout cas qui passe plus par une forme de mimétisme au paysage lui-même. Mmh. Ah, peut-être que tu nous dis deux mots sur ce que sont ces peintures.
Alors, les peintures de camouflage, elles ont de grandes raisons d'exister. C'est déjà, elles ont existé même avant les premières pièces sur la cartographie.
D'accord.
En fait, la question était finalement c'est un peu une réponse triviale, mais quelle est la meilleure peinture de paysage? Finalement, c'est le camouflage. C'est un peu trivial, c'est un peu gratuit de le dire comme ça, mais parce que finalement, tu mets la peinture dans le paysage et elle disparaît. Un peu. Et donc ça, c'est une des choses. Après, l'autre chose, c'est que c'est la raison pour laquelle je suis passé du camouflage à la cartographie. Enfin, c'est une des raisons qui m'y a amené. C'est que finalement, le camouflage est une façon très analytique de regarder le paysage, de quantifier les caractéristiques de végétation, de terrain, de couleur, même de saison, puisque les couleurs changent. Mmh. Et donc, à partir de là, d'étudier un registre de couleurs et d'étudier un registre de forme qui va au mieux correspondre au terrain dans lequel pour lequel il est fait, quoi. C'est assez intéressant, par exemple, pour la première guerre du Golfe, le camouflage, le désert de camouflage américain, au tout début, ils pensaient qu'il était le bon, et en fait, ils se sont très vite rendu compte qu'il n'était pas efficient. Donc, du coup, ils l'ont modifié. C'est le même, mais il est un peu plus... il a été retravaillé, etc. Et donc, il y a évidemment le camouflage, il est une sorte de langage de code, finalement, aussi très très précis, très élaboré, et au même titre que la cartographie, il est aussi celui qui a la carte, il a le territoire, et presque celui qui a le camouflage, il a le territoire aussi.
Ouais, pour toi, il y a un rapport de possession direct.
Oui, c'était très flagrant avec la guerre du Golfe, parce que le camouflage, je parle surtout des tenues de camouflage. Mmh. Des tenues militaires, il est de moins en moins véritablement utile avec les moyens technologiques qu'on a. Cacher juste quelqu'un à l'œil normal, ça marche, ça a encore une certaine efficacité, mais avec tous les autres moyens technologiques, ça cache plus rien. Et donc du coup, le camouflage, il s'est transformé, et il est redevenu une sorte d'objet, d'apparat propre aux militaires, et du coup cet apparat, il est aussi une façon de s'approprier le territoire. On a un camouflage qui correspond à un territoire, et donc en disant qu'on a le camouflage de ce territoire, d'une certaine manière
on le possède,
quoi. Et c'est, je trouve, finalement une sorte de guerre psychologique, enfin de propagande extrêmement violente, quoi. C'est déjà
c'est une conquête.
C'est déjà la conquête, quoi. Tout ça avec la mode qui est venue entre temps, et donc du coup, justement, pour la deuxième guerre du Golfe, je me souviens quand ils ont déclaré la guerre, les Américains ont déclaré la guerre, la deuxième, à l'Irak. Donc il y avait le ministre américain qui était en civil, et derrière il y avait 5 ou 6 généraux. Et chacun d'eux avait une tenue de camouflage différente. Mais ils étaient vraiment en parade, quoi.
Ouais.
C'était un truc assez étonnant, quoi. Et donc il y a cette chose-là qui m'intéresse. Et puis après, il y a un truc historique, que les premières personnes qui ont commencé à travailler sur le camouflage sont la plupart des artistes, peintres. Certains venant du cubisme. Donc il y a une filiation, histoire de la peinture et histoire de l'art.
Ouais.
Et donc c'est vrai que les camouflages que je représente généralement sont liés à des moments historiques, comme paysages français, donc je les appelle les paysages.
Ouais, peut-être c'est bien si tu nous redis comment marchent les titres, parce qu'ils sont assez éloquents.
Donc, il y a une série de paysages français, qui donc le camouflage de l'armée française. Le tableau s'appelle Paysage français 1950, et qui est simplement le camouflage de l'armée française en Indochine. Mmh. Après, il y en a un qui est de 60, qui est le même, avec des couleurs un peu différentes, et qui est en fait l'occupation de l'armée française en Algérie. Donc il y a comme ça, et en plus, bon, j'ai choisi ce camouflage-là pour ce moment-là historique, mais aussi parce que le pattern, le motif, ressemble à une sorte de draping. Mmh. Donc il y a une espèce de jeu de parallèle entre l'histoire de la peinture et l'histoire du camouflage.
Qui est la peinture gestuelle des années 50. Ouais.
Et donc là, pour revenir à ceux qui seront présentés chez... Dans l'expo du Point Nemo, c'est une série de camouflages qui sont des camouflages récents de 2010 de l'armée américaine, mais qui sont des camouflages de la Navy, qui sont donc des camouflages d'uniformes portés sur des mecs qui sont sur des bateaux, donc qui servent à rien, mais qui quand même...
S'ils tombent peut-être.
Ouais, bon, comme ça on les retrouve plus, mais qui sont quand même un camouflage maritime, donc avec une gamme de bleu, et qui sont une nouvelle forme de camouflage qu'on appelle le digi-camouflage, qui en fait est une sorte de jeu de trame fait de pixels, de gros pixels.
Ouais. Voilà.
Et ce que je les ai choisis ceux-là parce qu'ils renvoient évidemment là aussi à une certaine histoire de la peinture. Il y a des tableaux de Adrien Hart des années, je crois qu'ils sont 50, je ne suis pas complètement sûr, qui sont comme ça des rectangles de différents bleus qui se superposent et qui sont très, très explicitement très proches. Et ça ressemble aussi à quand on fait un zoom sur la mer dans Google Earth. On zoome les pixels en fait, donc du coup, tout d'un coup on a une espèce de masse de pixels. Donc voilà, c'est un camouflage qui ne camoufle vraiment plus rien, qui n'a plus que le nom de camouflage, qui est aussi un zoom cartographique. Hein. Mm. C'est aussi une sorte de focus comme ça. La cartographie, on est finalement à une échelle toujours assez lointaine. Et là, le camouflage, c'est une carte à l'échelle 1 en fait.
Ouais. Ils portent eux-mêmes le Google Earth dans lequel ils essayent de se fondre.
Ouais, c'est intéressant, mais ce lien, je l'ai fait pas tout de suite en fait, mais il y a vraiment un rapport des grandes similitudes, et cette question d'échelle, elle est vraiment là. Parce que, en fait, historiquement, c'était assez intéressant. C'est la Première Guerre mondiale, on a les premiers avions ou les premiers dirigeables, donc on voit les terrains, les militaires, les soldats de dessus. À ce moment-là, pas que pour ça, mais on commence à enfouir les soldats, on voit le premier camouflage apparaître, donc on se cache dans la nature, en tout cas ce qu'il en reste. Et donc la vision du dessus, c'est la vision cartographique, et en réponse à la vision cartographique, on invente le camouflage, qui est finalement l'échelle du paysage. Je le vois comme quelque chose d'extrêmement lié, étroitement lié, en fait.
Dans les liens, il y a aussi la question de l'aplat. Il y a un rapport entre la carte et le camouflage. Les deux sont des aplats. Et toi, dans ta pratique de la peinture, tu effaces... il n'y a pas la trace de ton geste dans ces deux pratiques.
Oui, c'est une peinture qui est sans effervescence picturale, on pourrait dire ça comme ça. C'est une peinture qui se camoufle elle-même, c'est-à-dire je la cache, il y a pas le geste est il semble à chaque fois un geste extrêmement mesuré. Enfin, c'est vrai que tu as raison, on le voit pas, quoi. Il est pas là comme une expression d'un savoir-faire, mais on en parlait tout à l'heure. Tu vois.
Et ce qui est d'autant plus troublant, effectivement, avec ces peintures des années 50, qui reprennent des motifs très gestuels, en fait, et qui en font
Ouais.
Qui en font un pattern, quoi. Qui en font un pattern très. Très. Enfin, très contraint. Et qui n'a plus du tout de portée expressive de laquelle c'est
venu,
ouais. C'est inspiré. Mmh. Ce qui est, c'est aussi ça qui est curieux dans cette série de peintures, c'est que. Enfin, tu disais, on pourrait la mettre dans un paysage et elle se fondrait. C'est vrai, mais en même temps, tout ce que tu mets en place pour les nommer, pour les indiquer, montre à quel point elles sont inscrites aussi dans un temps. C'est-à-dire, dans les années 50, on fait du dripping. Dans les années 2010, on fait des éléments de pixels. C'est-à-dire que c'est représentation du paysage ou fantasme d'insertion du paysage. Ils sont très précis en termes culturels, en termes d'époque.
Oui, oui.
Ils sont finalement très inscrits, si tu veux. Et de la même façon que les cartes dont on parlait tout à l'heure sont toujours inscrites dans leur temps. Il y a cette idée que que cet objet qu'est le paysage, il est toujours regardé depuis une période et un contexte culturel très, très singulier.
De toute façon, l'idée même du paysage, c'est une idée, c'est pas un truc qui existe, un paysage. À l'origine, c'est vraiment un truc culturel, construit, qui change, qui se déplace, qui évolue. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand tu parles avec n'importe qui, comme ça, quand tu lui parles du paysage, à la fois il est dans l'idée ultra classique du paysage, une espèce de point de vue avec le lointain, etc. Mais en même temps, il a complètement intégré cette idée extrêmement contemporaine d'un paysage dématérialisé, dans lequel on est, sans y être. Mmh. Et il y a ces deux choses qui désignent la même, enfin ce terme qui désigne deux choses différentes. Et moi, je pense qu'elles ne sont pas différentes du tout. C'est juste, effectivement, comme tu dis, une façon de lire ces questions-là, et de les déplacer et de les faire évoluer.
Ouais. Ce qui pose aussi la question de ce que c'est. Fin... Parce que c'est marrant, enfin, tu le rappelais, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont fait des camouflages, des peintres abstraits. Mmh. Mais là, on revient à cette question autour de Sol Lewitt, c'est-à-dire que t'identifies quand même très vite à quel endroit des choses qui sont présentées comme des gestes artistiques désintéressés peuvent très vite se rabattre sur des choses très utilitaires. C'est-à-dire, effectivement, une abstraction colorée. Ça peut devenir une représentation du paysage, tout comme une série de traits peuvent devenir des façons de se repérer sur une carte avec les martels noirs. C'est-à-dire qu'on est aussi dans ce réglage de focale, quoi, dans cet endroit où on a une représentation qui peut très vite basculer vers un désintéressement et une forme d'inutilité. Mmh. Et aussi très vite être rabattu vers une fonction très très précise qui est un mouvement de bascule que je trouve aussi intéressant que la perte de repère dans la carte dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cet endroit où c'est juste deux trois réglages de la façon dont on regarde quelque chose qui fait qu'on est
dont on les regarde.
Ouais.
Ouais, mais je crois pas à l'innocence de l'art. Bon, je sais pas si c'est une réponse à,
ouais, potentiellement,
à, ce, que,
ouais.
À ce que tu dis, mais je pense que y a une très très grande responsabilité. Et effectivement, tracer des lignes, ça peut, comme tu dis, être soi-disant neutre, mais je pense que cette neutralité, elle n'existe pas. Mm. Il y a forcément, justement, culturellement, dans l'ensemble des images qu'on a, il y a toujours un truc où ça peut coincer, ou ça doit poser question, ça pose question même.
Et c'est pour ça, parce que quand on préparait cet entretien, tu me disais que tu n'étais pas toujours très à l'aise avec l'utilisation de ces mots, enfin, que tu essayais d'en faire le moins, enfin, que tu essayais de ne pas en faire trop, pour le dire.
Oui, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est pour moi, il est quand même toujours question. La question, c'est l'art, la question de l'art, si tu préfères. Mmh. Et si on doit commencer à rentrer dans du militantisme, l'engagement, je me demande si c'est le lieu, même si ça n'empêche pas. Hein, ouais. Mais il faut, enfin, c'est trouver le bon équilibre, le juste équilibre entre un engagement et une question de l'art. Même si en tant qu'individu, artiste, j'ai mon engagement dans la question de l'art, évidemment. Mais, donc je sais que les camouflages, ils peuvent être très très vite problématiques.
Mm-hmm. Parce que ils sont pas strictement une image, en fait.
Non. Parce qu'ils portent une histoire, parce qu'ils portent des événements, parce qu'ils portent un certain nombre de choses. Mm-hmm. Mais c'est bien pour ça que je l'ai fait. Donc je suis tout le temps en train de balancer, en train de me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quoi. Ce dont on a parlé hier, tu vois, faut-il les faire, quoi. Non, parce que en fait c'est deux camouflages qui sont extrêmement picturaux, qui ont comme ça une espèce de gamme de couleurs extrêmement je sais pas trop si tu vois du pop ou du camouflage ou... Et en fait, c'est juste des zooms sur des camouflages des Waffen-SS. Donc, tu vois, ça, là, tu commences à être dans du... Mm. Mais est-ce que... Tu vois, on en a reparlé hier, et finalement, je me dis, mais est-ce que c'est pire de faire un camouflage des Waffen-SS ou de faire des camouflages de l'armée française en Algérie? Est-ce que c'est pire, finalement? Ouais. Peut-être pas, quoi. Tu vois, et peut-être...
Non, mais c'est aussi signifiant qu'à un endroit, quand tu sais... Enfin, parce que c'est censé être des abstractions et des représentations de paysages, c'est-à-dire des objets qui tentent, enfin, comme tu le disais, de faire disparaître quelqu'un dans un endroit. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, c'est finalement beaucoup plus que ça, parce que c'est toute cette part d'inscription dans une histoire et dans un contexte qui en fait des représentations très idéologiques, en fait. Enfin, ouais. Ou en tout cas, inscrits dans une forme d'idéologie.
Non, mais mais c'est comme la cartographie. La cartographie, ouais. Ouais, c'est les papes qui demandent les cartes, c'est Louis XIV qui fait dresser la carte de la France par la famille Cassini. Enfin, c'est utile. Et évidemment, c'est l'idéologie, la propagande... Après, ça lui sert à relever les impôts et à savoir à qui il doit faire la guerre. Mais voilà, tout ça, c'est tout ça, quoi. C'est clair. Donc, c'est vrai que quand tu travailles sur ça, tu peux pas t'en dégager. Enfin, ça me semble un peu absurde, quoi. La carte, c'est pas juste pour rêver, quoi. Même si ça aussi permet aussi ça. Mais
la pièce que tu montres à l'IAC, qui s'appelle Total Recall, donc qui est vraiment, enfin, dont le titre est clairement inscrit dans un registre de la science-fiction. Tu me disais, c'est une pièce que tu as fait pour la première fois au même moment que les camouflages. Et effectivement, elle a en tout cas un rapport de motifs qui sont des choses qui ressemblent à des espèces de globules vues au microscope, mais qui en même temps sont très, très différents, parce que là, pour le coup, effectivement, la relation à ce que ça représente est plus ténue.
Ouais. Mais c'était un peu... Ouais, c'est assez juste comment tu le décris, parce que c'était un peu ça, c'était de dire est-ce que c'est possible d'arriver à faire une peinture qui soit du même ordre que le camouflage. Le camouflage, c'est ni une peinture abstraite ni une peinture figurative. Je pense que c'est assez clair. Et donc d'arriver à trouver un autre motif qui échappe au motif du camouflage et qui soit aussi dans ce registre-là. Même si c'est désuet de dire abstrait, figuratif, tu vois, mais qu'il soit dans une sorte de définition d'une image autre. Et les globules, c'est vrai que l'imagerie scientifique, de microscopique, voire même macroscopique, immensément grand, m'a pas mal inspiré. Mais c'est une inspiration qui, pour le coup, est plus lointaine. Autant les camouflages et les cartes sont des vrais camouflages et des vraies cartes, autant là, il n'y a pas de source.
Il n'y a pas la copie d'un motif préexistant. Est-ce que tu peux juste en deux mots repréciser comment la pièce se présente et comment elle se présente à l'IAC aussi?
Donc à l'IAC, en fait, il y a deux pièces. Il y a Total Recall, qui est donc une peinture qui s'autoporte. Je ne sais pas comment définir ça autrement. C'est une peinture qui ne s'accroche pas au mur, qui est dans l'espace, dont le dos en fait lui permet de se tenir seul dans l'espace, comme un mur. Mm-hmm. Et donc Total Recall en fait est présenté tourné vers le mur, à peu près un mètre. La partie peinte est face au mur et donc elle crée un couloir. Donc d'abord qu'on arrive, en fait on voit le dos, on voit une sorte de châssis, de structure, une sorte de sculpture en fait, avec des reflets orange, puisqu'elle est orange, contre le mur en face, qui nous invite à passer. Et une fois qu'on est passé, comme on n'a pas de recul, en fait notre champ visuel est complètement englobé dans la peinture, puisqu'elle fait 2,20 m par 2 mètres. Et là, c'est une succession de couleurs, de dégradés. C'est un dégradé orange, très optique, très haptique, en fait, dans lequel, tout d'un coup, on est englobé, on est pris dans une expérience d'une peinture, en fait. Enfin, ou de la couleur, si on préfère. Et donc, dans l'expo, il y a cette peinture qui s'appelle Total Recall, qui est de 92. Et il y aura une autre peinture qui s'appelle Recall, qui est en cours de réalisation, qui est une réplique, une réplique plutôt qu'une copie de Total Recall, qui donc apparaît 22 ans après, mais une réplique qui se serait altéré, parce qu'au départ on a le Total Recall, là on n'a plus que le Recall. Et donc du coup l'altération, elle est que c'est la couleur qui change, ça va être la même, sauf qu'elle sera verte. Donc il y a une espèce de jeu de distance sur le temps, sur la mémoire, sur l'effet physique, visuel que propose la peinture. Tout d'un coup on va retrouver plus loin dans l'exposition, tiens, c'est la même mais pas la même, etc. Une sorte de jeu comme ça sur la perception qu'on peut avoir de ça, en fait, dans un temps d'expo et dans un déplacement d'une exposition.
Donc effectivement, là, on retrouve ces jeux d'échelle et de perte de... potentiellement de perte de repère, enfin, avec un territoire ou avec une représentation. C'est-à-dire, c'est cette idée que la cartographie représente un territoire et que là, on est potentiellement dans une échelle beaucoup plus petite, mais dont on n'a pas l'échelle, donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Ouais. Mais j'aime aussi bien cette idée que cet objet ouvre à une autre dimension, pour le dire comme ça. C'est celle de l'exposition, parce que tu as, là pour le coup, tu le disais, c'est des choses autoportantes qui impliquent une circulation, et puis tu me montrais hier des esquisses où effectivement la façon dont tout ça s'inscrit en tant qu'objet, et comment tout ça fabrique de la circulation semblait aussi être assez importante dans son mode de présentation.
Il y a une échelle qui est l'échelle qu'on a en commun, qui est notre échelle, notre corps dans un espace, en fait. Mmh. Et ça, c'est déjà une échelle d'expérience. Et donc l'idée de ces œuvres-là était de jouer avec cette échelle de l'expérience du corps et de la perception directe, quoi, première, sans... Alors pour le coup, autant le camouflage, il peut par exemple te mener à extrêmement construire un raisonnement, etc. Autant là, je ne dis pas qu'elles sont sans raisonnement, mais l'expérience, elle est directe, elle est première, en fait. Elle est de la couleur, de l'effet optique, de la taille, sans tomber dans du spectaculaire pour autant. Et donc cette expérience-là, elle est déjà pour moi une expérience de l'art fondamentale. Voir un vrai tableau, c'est juste une manière aussi de la partager, tu vois. Et cette expérience du corps, du spectateur à l'œuvre, elle existe dans plein d'autres œuvres, entre tous les reliefs que j'ai pu constituer. Sont que ça, c'est-à-dire comment donc c'est un jeu que comment percevoir la carte, non pas comme une carte mais comme une vraie paysage qui serait là devant toi, mais qui est effectivement pas un paysage à l'échelle classique du paysage, mais à l'échelle d'une d'un objet qui est juste là.
Sans médiation, quoi.
Ouais. Et après, Total Recall, pour revenir à ça, bon, il y a effectivement la référence très directe au film, qui est peut-être pas... qui n'est pas la vraie référence. En fait, la vraie référence, c'est pas le film, bien que. C'est plutôt l'auteur qui a servi à faire le film, c'est-à-dire c'est plutôt Philippe K. Dick, qui joue comme ça tout le temps sur ses glissements de perception. Est-ce qu'on voit ça, ou est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on est là, ou est-ce que je suis bien face au bon personnage? Enfin, tu vois, tout ce jeu de la complexité du réel, en fait.
Ouais.
Bon, qui est exagéré chez K. Dick, mais qui est pour moi fondamental. Enfin, c'est le camouflage, c'est pas juste joli, et on peut pas juste mettre ça sur ses fesses. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est attention au réel, quoi.
Ouais.
Et donc je pense, mais je sais pas, mais je pense qu'avec Total Recall, c'est peut-être plus facile de l'appréhender ou de le vivre, en tout cas. Mais je peux pas parler pour l'expérience des autres.
Ouais, mais c'est une expérience qui est similaire. Enfin, effectivement, elle est plus physique, parce que c'est une peinture très grande, que c'est un dispositif. Mais c'est malgré tout, à un moment, c'est cet endroit où on ne sait plus très bien ce qu'on regarde. On ne sait plus très bien ce qu'on regarde, on ne sait plus très bien à quoi on est confronté. Et donc, il y a cet endroit où... que ce soit se projeter dans une représentation extrêmement abstraite, que celle d'une carte, pour s'imaginer à quoi on a affaire, ou se retrouver face à quelque chose qui pourrait être infiniment petit, mais dont on fait l'expérience de façon démesurément grande, relève de cette même ambiguïté. Et effectivement, qu'à un moment, quand tu cites le nom de K. Dick, c'est aussi très direct, c'est effectivement cette expérience qu'on fait en permanence dans ces romans, de plus savoir est-ce qu'on est en train de se balader sur la représentation ou dans le monde lui-même.
Oui. Et puis parce que le lieu d'exposition, il est aussi... il a sa singularité.
C'est effectivement ça. Enfin, le fait de sortir cette expérience dans le cadre d'une déambulation me paraît aussi être un autre basculement avec cette pièce là mais comme tu dis, de la même façon que les reliefs, en fait, dont on fait l'expérience en direct.
Ouais. Ou on marche dessus quand ils sont en moquette.
Je crois que vous aviez pensé à l'extrait d'un film pour finir.
Ouais. Alors, c'est un peu complexe parce que je vais gâcher la surprise en parlant, mais en fait il y a ce film qui est sorti récemment qui s'appelle Godzilla, donc il y a un film de monstre assez conventionnel, et il est assez par rapport au blockbuster américain, il est assez distendu, il est plutôt long à venir parce que c'est plutôt pas mal, mais tout d'un coup, par contre, au moment où on est en plein dans l'action, le truc, ça y est, on a les monstres qui se battent, ça y est, il y a les gens qui essayent de se sauver et tout. Il y a une scène qui renvoie comme ça, juste parce qu'il y a en fait une bande son, et qui me renvoie à complètement autre chose. En fait, c'est la même musique qu'il y a dans 2001, l'Odyssée de l'espace, au moment où, après avoir est arrivé près de Jupiter, il est embarqué dans on sait pas trop quoi, et donc il y a tout ce long passage dans 2001 d'effets visuels, optiques ultra purs, et il y a en fait le requiem de Ligeti. Donc moi j'avais cette association depuis très très longtemps de la musique de Ligeti et de cette image optique et de ce film du cinéma de Kubrick et de 2001, donc il y avait un truc très fort. Et là, tout d'un coup, il y a une scène où il y a cette musique qui apparaît, et c'est tout autre chose. C'est à la fois C'est du cinéma américain, quoi. C'est comme ça, il y a des trucs, des fois, tu sais pas pourquoi, ça, c'est opérant, est-ce que c'est bien, je suis pas sûr, mais ça a une certaine efficacité.